Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce dimanche, c'est le 26 janvier et on célèbre la fête nationale en Australie. Un certain nombre de cas de coronavirus désormais confirmés en Australie. Et puis le bilan des victimes d'un tremblement de terre en Turquie ne cesse d'augmenter. Dr James Mookey, un chirurgien travaillant à prévenir la cécité, a été nommé Australien de l'année 2020 pour son travail dans la prévention de la perte de vision ici en Australie et en Birmanie. Le travail du médecin se concentre désormais sur le diabète de type 2 qui affecte un Australien sur 10 et est la cause la plus rapide de perte de vision pour les autochtones. Le professeur John Newnham a été nommé Australien senior de l'année pour son travail dans la prévention des naissances prématurées, tandis que la joueuse de tennis Ash Barty a été nommée jeune Australienne de l'année. En Nouvelle-Galles du Sud, une veillée a eu lieu pendant la nuit à Barangaroo, à Sydney, pour une pensée à l'impact de la colonisation en Australie. La veillée, une partie du Festival de Sydney, a été suivie du Smoking Ceremony et d'une procession dirigée par la communauté autochtone dans les rues de Sydney. Les peuples autochtones et non autochtones se sont réunis pour regarder le lever du soleil entouré de 250 drapeaux autochtones à Victoria. Une messe du matin a également eu lieu avec la représentante principale de la fondation Boonwurrung, Caroline Briggs. Caroline Briggs déclare qu'il est important de reconnaître les effets du colonialisme sur les peuples autochtones.
We in the present can learn and appreciate from the past and set the groundwork for better and brighter future for all and make this a stronger nation as we know it today. This is not to say anything was what the issues of colonialism and the impact did present those problems and those challenges for our people. And some of those gaps need to be acknowledged and healed.
Le ministre des Affaires autochtones en Australie, Ken Wyatt, a déclaré que la fête de l'Australie devrait rester le 26 janvier, mais que les commémorations à travers le pays devraient marquer à la fois le bien et le mal de l'histoire du pays. Ken Wyatt, le premier autochtone à être ministre des Affaires aborigènes, a déclaré sur la chaîne 9 que les débuts sombres devaient être reconnus dans les communautés à travers le pays, mais cela ne doit pas faire oublier les célébrations de ce qu'il considère comme un pays multiculturel remarquable que l'Australie est devenue. Les autorités australiennes ont confirmé 4 cas de coronavirus alors que plus de 1300 personnes dans le monde sont traitées pour l'infection mortelle qui a tué au moins 41 personnes. Un homme de Melbourne est revenu de la Chine la semaine dernière où il a contracté le virus, tandis que 3 cas ont également été confirmés en Nouvelle-Galles du Sud. Plusieurs personnes sont également testées en Australie méridionale. Le ministère des Affaires étrangères a relevé le niveau des conseils aux voyageurs pour la province de Wuhan et de Hubei afin d'éviter de voyager dans ces endroits, alors que la maladie est désormais répertoriée comme ayant un potentiel pandémique, ce qui permet de renforcer les mesures aux frontières. Le premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que les autorités australienne prenait la menace au sérieux et était bien préparée.
The preparedness and the plans and the capabilities are in place here in Australia to deal with issues of this nature. We have the people, we have all of the procedures that are now swinging into place to ensure that we can provide the protection to Australians.
Le médecin-chef de l'Australie, Brendan Murphy, a déclaré qu'étant donné le nombre de cas détectés à l'extérieur de la Chine et le nombre élevé de voyageurs en provenance de Wuhan en Australie, les autorités s'attendaient à certains cas.
For the time being, as of this afternoon, we'll be meeting all flights from China, and there are a very large number of flights to Australia each week from China, and providing information to all passengers in English and Mandarin, encourage them if they've been from that Hubei province of China, particularly the city of Wuhan, and if they get any illness when they're here, to seek medical attention and identify themselves as having come from that region of China.
Et en Chine, l'épidémie de pneumonie de coronavirus est grave, avertit le président chinois Xi Jinping. Analyse du professeur Emmanuel Linco de l'Institut catholique de Paris et chercheur à l'IRIS. Il est sur Radio France Internationale.
Fort de l'expérience malheureuse de 2003, qui avait chahuté la présidence d'alors de Jiang Zemin et qui avait précipité justement une accélération de la marginalisation du clan Jiang Zemin au profit finalement de l'actuel. Hein. Tout cela, Xi Jinping, évidemment, en a la mémoire vive et veut très certainement éviter ce risque d'erreur et un renouvellement fâcheux de l'histoire. Et là, on voit bien justement la différence entre la manière de gérer cette crise, c'est-à-dire que les autorités chinoises ont réagi immédiatement aux premiers symptômes, et ce qui survint il y a maintenant 17 ans, qui avait fait plusieurs centaines de morts, on n'en est pas encore à ce seuil-là, mais qui avait eu des conséquences évidemment importantes, alors moins de nature économique pour l'époque, parce que la consommation était moindre tout simplement chez les consommateurs chinois qu'aujourd'hui, que politique.
En Turquie, un tremblement de terre a secoué l'est du pays, un tremblement de terre de 6,8 sur l'échelle de Richter, au moins 29 morts et plus d'un millier de blessés. C'est un bilan encore provisoire. Anne Landauer pour RFI.
Les télévisions turques diffusent en direct les images d'immeubles effondrés, des images de secouristes ordonnant le silence, puis criant « Quelqu'un m'entend-il ?» au milieu des décombres. En tout début d'après-midi, alors que les caméras filmaient, ils ont entendu une voix sous les ruines d'un bâtiment du quartier de Mustafa Pasha, au centre d'Elaz. Une heure plus tard, un adolescent de 16 ans était extrait vivant de cet immeuble qui comptait autrefois 5 étages. Dans le district de Maden, toujours à Elaz, une femme enceinte de 6 mois a pu être sauvée en début de matinée, mais son fils de 12 ans a succombé à ses blessures. Les nombreuses répliques, près d'une centaine dans les 12 heures qui ont suivi la première secousse, compliquent le travail des équipes de secours. Les autorités appellent les habitants à ne pas retourner dans les immeubles endommagés. Ils dorment chez des proches dans des tentes et des bâtiments municipaux. À Adıyaman, une province située au sud d'Elaz, les 814 détenus d'une prison sont en cours de transfert vers d'autres centres de détention. La Turquie est située sur plusieurs lignes de faille et fréquemment touchée par des séismes. Cela faisait des années que les experts mettaient en garde contre la possibilité d'un séisme important dans l'est de la Turquie.
Au Liban, une autre journée de manifestation à Beyrouth et cette fois suite à l'annonce du nouveau gouvernement cette semaine. Précision de Nicolas Falaise et Julien Boileau sur place pour Radio France Internationale.
De nouveau des scènes d'affrontements dans le centre de Beyrouth avec de petits groupes de manifestants qui ont tenté de franchir les grilles du Parlement libanais et que les forces de l'ordre ont repoussé avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Des scènes qui contrastent avec l'atmosphère du début du rassemblement. Dans l'après-midi, 5 cortèges se sont élancés dans les rues de Beyrouth pour converger vers le centre-ville. Une manifestation particulière, une semaine après un week-end marqué par des violences qui ont fait plusieurs centaines de blessés. Particulière aussi parce qu'un nouveau gouvernement a été nommé cette semaine au Liban, avec un Premier ministre qui promet de répondre aux revendications des Libanaises et Libanais mobilisés depuis le 17 octobre dernier. Mais ce soir à Beyrouth, les protestataires étaient unanimes pour rejeter cette nouvelle équipe dirigeante. Ils estiment que la classe politique de leur pays a surtout montré son incapacité à se renouveler et donc à résoudre les problèmes d'un pays miné chaque jour un peu plus par la crise économique.
Au Gabon, en Afrique, le calme revenu après les violences de vendredi qui ont fait 2 morts lynchées par la foule. Précision de Yves Laurent Goma pour RFI.
C'est toujours le calme à Libreville. Les bars fonctionnent, tous les commerces sont ouverts. Cependant, plusieurs quartiers gardent encore les stigmates de cette folle journée. Il y a des restes des barricades sur le côté, les cendres des pneus brûlés sont visibles dans plusieurs carrefours. La population s'interroge s'il faut envoyer les enfants à l'école lundi. Elle rend le gouvernement responsable pour avoir tout nié. Tout est parti de l'enlèvement il y a environ 2 semaines d'un garçon de 3 ans à Bitam à la frontière avec le Cameroun. Les réseaux sociaux ont amplifié des messages toxiques sur le sujet. L'on a parlé d'un projet de sacrifier 1000 enfants pour permettre à des hommes politiques de revenir aux affaires ou d'un trafic lucratif d'enfants entre le Cameroun et le Gabon. Ayant pris la mesure de la colère populaire, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matta, a déjà renforcé la présence policière dans la ville. Lundi, il y aura plus de policiers devant les écoles.
L'équipe juridique du président américain Donald Trump a entamé son plaidoyer dans le procès en destitution contre lui. Les avocats de Donald Trump ont fait valoir que le président n'avait pas bénéficié d'une procédure régulière tout au long de la procédure de destitution, car il n'était pas en mesure de présenter des preuves ou de contre-interroger les témoins. L'avocat de Donald Trump, Patrick Philbin, a déclaré que le président avait été exclu du processus.
It's the fastest investigatory process for a presidential impeachment in history. And for 71 days of that process, for 71 days of the hearings and the taking of deposition and hearing testimony, the president was completely locked out.
Et puis les célébrations du nouvel an lunaire ont commencé dans le monde entier. Plus d'un milliard de personnes devraient se joindre aux festivités. L'Australie accueille le plus grand événement du monde en dehors de l'Asie, attirant 1,5 million de personnes. Le PDG de Australian Tourism Council, Simon Westaway, a déclaré qu'en dépit des préoccupations concernant la propagation du virus et l'impact des feux de brousse, l'Australie est toujours susceptible d'être une destination populaire pour les visiteurs étrangers.
This year's Chinese Lunar New Year for Australia is still holding up well. There's been obviously a lot of impact on the Australian tourism industry over recent times. It has been a very tough summer for us, despite it's been a resilient industry. But the Lunar New Year will deliver significant numbers again into Australia. We've become a popular destination for Chinese nationals at this time of year.
On passe maintenant à la météo pour ce dimanche. En Australie, Perth maximale de 35 degrés, Adélaïde 27, Melbourne 27 également, Hobart 23, Canberra 35, Sydney 30, Brisbane 30 également, Cairns 32, Darwin 33 et à Alice Springs maximale de 39 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 26 janvier. Et on célèbre la fête nationale en Australie. Un certain nombre de cas de coronavirus désormais confirmés en Australie. Le bilan des victimes d'un tremblement de terre en Turquie ne cesse d'augmenter. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.